Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question de mobilité électrique, de la transition en cours vers ce type de motorisation et du cadre législatif mis en place dans plusieurs pays et États, justement en vue d'accélérer cette transition, comme c'est le cas au Québec, avec l'annonce récente du gouvernement actuel visant à interdire la vente de véhicules neufs carburant à l'essence dès 2035. Mais avant cela, je vais vous parler de ma première expérience au volant d'une voiture à motorisation purement électrique, de la mise en place du premier plan d'action du gouvernement du Québec en 2010 et du petit rôle que j'ai joué dans l'élaboration de ce plan. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile.
Au volant avec Gabriel Gélina.
Nous sommes en novembre 2009 à Los Angeles, plus précisément dans le grand stationnement adjacent au stade de baseball des Dodgers. La voiture conduite à cette occasion était une Nissan Versa modifiée afin de recevoir la motorisation électrique de l'éventuel Nissan Leaf dont la commercialisation était alors imminente. La conduite de ce véhicule m'avait évidemment permis d'apprécier le silence de roulement à bord et surtout la livrée instantanée du couple, de la force d'accélération si vous voulez, ce qui est le propre d'un moteur électrique. La Nissan Leaf, lancée dès 2010, n'a pas été la première voiture électrique disponible au public. On se rappellera de la EV1 de General Motors, qui a connu une brève carrière et dont la commercialisation était limitée aux États américains de la Californie et de l'Arizona. Mais la Leaf a véritablement été la première voiture électrique accessible à un public plus large en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Carlos Ghosn, alors président et chef de la direction de Nissan, était sur place pour nous présenter sa vision d'un avenir où les voitures électriques devaient représenter 10 % du marché automobile mondial dès 2020. Quelques mois avant cet essai du prototype de la Nissan Leaf, j'ai reçu un appel téléphonique de Nathalie Normandeau, qui était alors vice-première ministre du Québec, ainsi que ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Au cours de notre conversation, elle m'a informé que le gouvernement du Québec était en train d'élaborer un plan d'action en matière de mobilité électrique, mais qu'elle n'était pas entièrement satisfaite du plan mis au point par la fonction publique en place. En fait, elle m'a dit qu'elle trouvait que ce plan n'était pas assez ambitieux, que ce n'était pas, dans ses mots, un « game changer ». Elle m'a alors demandé si je pouvais en faire la lecture et faire part de mes commentaires de façon confidentielle, ce que j'ai accepté. Quelques jours plus tard, je recevais copie de ce plan et je comprenais pourquoi la ministre trouvait que ça n'allait pas assez loin. En gros, cette première ébauche du plan ne prévoyait pas une subvention accordée à l'achat, mais plutôt un éventuel crédit d'impôt accordé à l'acheteur d'un véhicule électrique. Aussi, on n'accordait que très peu d'importance aux mesures incitatives accordées aux acheteurs de véhicules hybrides rechargeables qui allaient se pointer très rapidement sur le marché. Ce plan signifiait donc que l'acheteur d'un véhicule électrique allait payer le plein prix pour son véhicule et financer le montant complet de la transaction pour recevoir son crédit d'impôt lors de la production de sa prochaine déclaration de revenus, donc après un délai pouvant atteindre plusieurs mois, ce qui m'apparaissait comme un non-sens si la volonté était vraiment celle de faciliter l'accès à la mobilité électrique. J'ai donc recommandé que le montant de la subvention accordée soit déduit immédiatement par le concessionnaire lors de la transaction et que cette subvention soit versée au concessionnaire par la suite, de façon à ce que le client n'ait pas à payer le plein prix, financer le plein montant et attendre son crédit d'impôt. Bref, de créer un mécanisme selon lequel la transaction soit plus facile et plus immédiate pour le client, ce qui a éventuellement été fait. Aussi, j'ai recommandé que l'on accorde des mesures incitatives bonifiées pour les acheteurs de véhicules hybrides, entre autres. Quelques mois plus tard, le gouvernement du Québec dévoilait son plan d'action comprenant justement une subvention accordée directement au moment de la transaction, ainsi que des mesures pour les véhicules hybrides et d'autres mesures mandatant notamment la possibilité de pouvoir installer des bornes de recharge dans les nouvelles constructions. Depuis cette époque, le programme du gouvernement du Québec a été modifié, mais les grandes lignes sont demeurées les mêmes. Malgré ces mesures, à l'heure actuelle, en 2020, les véhicules électriques ne représentent que 1,3% du parc automobile au Québec. On est donc encore très loin des prévisions annoncées par Carlos Ghosn il y a 10 ans, mais cette transition vers la mobilité électrique va maintenant évoluer plus rapidement. Pourquoi? Essentiellement parce que plusieurs gouvernements vont promulguer des lois visant à accélérer cette transition, notamment en interdisant la vente de véhicules neufs fonctionnant au carburant fossile dans l'avenir. C'est le cas au Québec, où le gouvernement compte les interdire à compter de 2035, en modifiant la loi dite « zéro émission » actuelle. Il est important de préciser ici que les véhicules à vocation commerciale ou industrielle ne seront pas affectés et qu'il ne sera pas interdit de conduire un véhicule fonctionnant à l'essence. En procédant de la sorte, le Québec emboîte le pas à la Californie, ainsi qu'à plusieurs autres États, pays et villes qui ont eux aussi décidé d'interdire la vente de véhicules neufs fonctionnant en carburant fossile sur une échéance plus ou moins lointaine. Ainsi, ce sera 2035 au Québec et en Californie, mais 2030 au Royaume-Uni et en Inde, alors que la Norvège, par exemple, impose 2025 comme date limite. Pour ces gouvernements et plusieurs autres qui vont aussi légiférer en ce sens prochainement, l'objectif est très clair et c'est de forcer la main aux constructeurs automobiles en leur imposant d'alimenter leur réseau de concessionnaires avec des stocks de véhicules électriques suffisants, non seulement pour répondre à la demande actuelle, mais aussi à celle qui est à venir.
Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.